Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on décortique, on critique, on analyse, on encense les shows de la WWE et qu'on sort. Je suis Raphaël, je suis de retour après une petite absence, veuillez bien me le pardonner. Mais je suis là pour les grands moments et je suis là pour le Monday Night Raw de la Draft 2023. 1er mai, jour férié, mais on ne chôme pas à la WWE et on ne chôme pas à Catch Up. D'ailleurs, j'ai avec moi un spécialiste du travail acharné, Giscal. Comment ça va, Giscal ?
Salut Raphaël, salut tout le monde. Et spécialiste, c'est joyeuse fête du travail à tout le monde. Et à toi aussi, Raphaël, hein, parce que voilà, la fête du travail marque le grand retour aux affaires. C'est très bien, c'est tout un symbole.
C'est tout un symbole. Et nous sommes à Fort Worth, au Texas. On reste dans le Texas pour cette draft. Nos camarades ont déjà mis en ligne la première version du draft qui a eu lieu à SmackDown. Dont Giscal, tu veux nous faire une petite réaction en un mot ou deux ?
C'est ce que j'allais te dire, je suis fort, fort gêné parce que j'étais en train d'écouter leur épisode tout chaud sorti ce matin dans le prolongement de Raw, donc j'ai pas pu complètement le parcourir, mais je suis sûr qu'ils ont été bien évidemment à la hauteur de cette première nuit, et j'invite tous nos auditeurs à aller voir ce que nos chers papy et ringside on dit de cette nuit 1, puisque vous allez forcément avoir besoin de leur lumière pour maintenant découvrir avec nous la nuit numéro 2.
Et oui, exactement, puisque tout le monde peut changer de camp, comme on nous l'a dit, tout est possible, les champions peuvent bouger, les factions peuvent être divisées. Donc on avait deux bassines, deux poules, on a eu la poule de la nuit 1, avec notamment la confirmation que Roman Reigns et Solo Sikoa assuraient à SmackDown. Mais quid des Usos, nous ne savons pas encore, avec l'arrivée de Cody Rhodes à Raw, par exemple, le changement de championne de SmackDown, Bianca Belair, qui part à Raw. Donc, plein de choses déjà qui se sont passées. Et on commence pareil sur les chapeaux de roue avec Triple H qui arrive, qui nous rappelle un petit peu de quoi ça va se passer tout ça. Voilà, on va changer, il va y avoir des brands, etc. Mais il nous précise qu'il y a une petite exception. Brock Lesnar, lui, il est fiant, donc il va où il veut et il fait ce qu'il veut. Et alors ça, la foule je n'ai pas trop compris pourquoi, parce que c'est plutôt cool de pouvoir avoir Brock Lesnar partout, non ?
Oui. Ouais, mais globalement, de toute façon, que ce soit entre SmackDown et Raw, c'est vrai que j'ai pas trop compris les réactions de la foule, puisque à SmackDown, ils étaient heureux d'avoir les pics de Raw et de SmackDown, et en même temps que personne, tous les pics de SmackDown ne soient pas là. Et puis là, Rebelote à Raw, ça huait les potentiels free agents, et puis ça acclamait les pics de SmackDown qui ne seront pas là ce soir. Enfin, j'ai pas compris, mais le public était manifestement à la baguette, dans la paume de la main de Triple H, puisqu'il réagissait à tout, donc tant mieux pour eux. Mais j'ai pas compris, ouais.
C'est des Texans, écoute, ils étaient heureux, tant mieux pour eux, effectivement. On va voir si nous, on est heureux de cette soirée. En tout cas, Triple H annonce une première série de transferts avec la championne de SmackDown, qui est la première pick de Monday Night Raw, donc Rhea Ripley, par Arrow. Donc nous aurons un échange de ceinture, très probablement, entre les championnes féminines. Austin Theory, lui, va à SmackDown, donc les titres intercontinentaux et US se déplacent aussi, hein, puisque Gunther et sa team sont partis à Raw. Seth Rollins va à Raw, donc là on a la confirmation que le Monday Night Messiah va être le lundi. Et Charlotte Flair, qu'on n'a pas vu depuis un moment, qui est la deuxième pick de SmackDown. Voilà, qu'est-ce que ça t'a inspiré, ce premier chapeau ?
Écoute, ouais, alors c'est quelques petites questions. Alors autant chez les hommes, en effet, tu l'as mentionné, donc on intervertit, hein, Austin Theory et Gunther, donc il change de show, et donc par essence les ceintures aussi changent de show. Alors ces ceintures-là ne sont pas brandées, donc c'est vrai qu'il y a pas de, ça ne pose pas forcément de questions. Mais tout de suite, ouais, une des premières questions, tu disais, ouais, les filles vont échanger leurs ceintures. Alors c'est vrai que je serais curieux de voir comment ça va se passer concrètement. Puisqu'on ne voit pas vraiment Rhea Ripley perdre son titre pour Zelina Vega, on ne voit pas non plus Bianca Belair perdre son titre contre Io Sky. De toute façon, Io Sky, ça ne changera rien, parce qu'il me semble qu'elle est à Raw, si je ne dis pas de bêtises. Si, c'est bien, ça aussi, ça changerait. Comment est-ce que les ceintures vont s'intervertir ? Est-ce qu'elles vont venir, elles vont se rencontrer, puis elles vont échanger leurs ceintures ? Dire, écoute, hein, ceinture pour ceinture, on échange, ce qui serait assez visuellement assez étrange. Et en même temps, je ne sais pas trop comment ils vont résoudre cette équation. En tout cas, toujours est-il que voilà, les ceintures ont fait ont voyagé. Et puis petit symbole, hein, forcément. Alors autant à SmackDown trois jours avant, la part belle du first pick, qui est tout un symbole aux États-Unis dans les exercices de draft. Hein, toujours le first pick, c'est quelque chose d'assez important. C'est une marque de reconnaissance très forte. Ils étaient allés aux hommes à SmackDown, hein, parce que c'est Cody Rhodes et Roman Reigns qui avaient eu les faveurs de ce first pick. À Monday Night Raw, c'est Rhea Ripley qui a eu cet honneur. Donc c'est pas anodin, hein, quand même. Hein, ça, c'est quand même un sacré tampon, quelque chose dont elle pourrait se vanter plus tard. Donc c'est toujours quelque chose d'intéressant. Devant Seth freaking Rollins quand même. Et donc voilà, jusqu'ici voilà, on en reparlera après, il y a toujours un peu circonspect sur cet exercice de draft, donc on va dire que j'ai juste observé plutôt ces dynamiques qui me font me poser des questions pour la suite, notamment les échanges de ceinture. Je sais pas toi comment tu imaginerais ce scénario, mais...
Bah, on a déjà eu, hein, de mémoire, nous avions eu le New Day et je ne sais plus quelle autre équipe. Il y a quelques années, champion tag team Raw, champion tag team de SmackDown, qui avaient juste échangé effectivement leur ceinture.
Ah ouais.
Ouais,
ouais. Ah ouais. Je me souviens pas du tout. Ouais, ah, écoute, si. Ça existe. Okay.
Et je pense même, mais là, peuple de catch-up, vous allez pouvoir me le fact-checker, qu'ils avaient comptabilisé ça comme un nouveau règne, ce qui était un peu problématique.
Ah bon,
parce que c'est quand même un peu bizarre. Hein.
D'accord. Oui.
Mais non, je pense que là, il faudra faire un truc, hein, parce que, comme tu c'est l'as dit, bizarre. Pour les titres US et intercontinental, il faudrait que ces deux titres féminins, ils les débrandent, quoi, qu'ils les appellent, je sais pas comment, moi, bah, comme ils faisaient avant, le poids lourd féminin et le WWE féminin, je ne sais pas, comme ça, on se fera pas chier. Ouais. Ça, on le saura sûrement à partir du 8 mai, puisque c'est ce qu'on nous dit, hein, ce week-end, nous avons Backlash, et après, les rosters redémarrent, on repart à zéro, qu'on verra bien ce qu'il en est. Nous avons l'arrivée de Paul Heyman. Paul Heyman qui est pas très content parce que Triple H voulait le nouveau titre World Heavyweight Champion qui trône juste à côté de lui, il sera exclusif à Raw. Donc Paul Heyman il dit ça fait chier parce que Roman Reigns il pourrait le gagner, ça lui serait bien quoi, ce titre. En plus il est gourmand Paul Heyman, et il est impu par celui qui est en train de dire que ce titre va aller à des espèces de clowns illégitimes. Et Seth Rollins débarque sous une pop monstrueuse, comme il a l'habitude en ce moment, Seth Rollins, avec la foule qui scande sa musique, mais beaucoup moins longtemps quand même que le public français à Paris, il faut le signaler, à Bercy. Bravo les Français, vous avez pété l'ambiance, vous avez tout explosé. 10 minutes de chant pour Seth Rollins, il me paraît qu'il est en train d'essayer de se faire naturaliser, hein, ce bon Seth. Mais en tout cas là, il dit à Paul Heyman, écoute, ça tombe bien quand même cette histoire de draft, parce que maintenant, vous avez plus besoin d'avoir peur de moi, vous avez plus besoin de me craindre, je vais pas essayer de venir chercher Roman Reigns, je vais pas venir essayer de lui chercher son titre et son règne, et vous allez pouvoir gérer vos propres affaires. Je trouve ça hyper décevant, parce que putain, qu'est-ce que j'aurais envie de voir Seth Rollins venir chercher Roman Reigns. Mais bon, là-dessus, Solo Sikoa débarque, et puis Paul Heyman et tout ce petit monde nous bookent un match ce soir entre Solo et Seth Rollins. Donc voilà, un petit segment d'ouverture qui positionne quand même Rollins comme un très 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 gros favori, je pense, pour cette ceinture. Mais moi, au final, petit effet gâché, parce que ça me fait chier qu'on dise « Ah bah dommage, on n'aura pas Seth Rollins contre Roman Reigns, tant pis quoi ».
Ouais, écoute, alors ça m'a pas trop, je vois ce que tu veux dire, ça m'a pas trop embêté sur le moment. En fait, j'ai bien aimé le début de la passe d'armes, je trouvais que c'était plutôt cool, dans le sens où on est un petit peu sur du booking un peu moyen-long terme, avec ce petit segment qui je trouve était pas mal. Alors comme tu dis, Seth Rollins se positionne très clairement. De la même manière que la semaine dernière, quand ils avaient annoncé cette ceinture, tout de suite le premier qui était sorti, du sous le titantron et qui en avait parlé et qui avait posé ses yeux dessus et qui avait lourdement insisté, c'était lui. Là encore cette semaine, tout de suite, quand la discussion tourne autour de cette ceinture, bim, qui voilà qui réplique, c'est Seth Rollins. Donc voilà, on l'a compris, hein, et comme tu l'as dit, c'est l'archi favori pour ce titre. Et écoute, ce serait, je pense, par rapport à la dynamique pour lancer cette, pour relancer cette nouvelle ceinture, parce que ça aussi, on en a parlé, hein, mais c'est une, c'est plus, c'est une réactivation d'un titre historique plus qu'une nouvelle ceinture. Je pense que Seth Rollins est tout, tout choisi, vu son niveau d'overness que tu as rappelé là, en ce moment, pour être ce champion inaugural. Donc ça, c'est pour, en tout cas, pour moi, c'est du tout bon. Et puis j'ai bien aimé aussi la petite promo avant que Seth Rollins arrive de Paul Heyman qui était un petit peu voilà bah, qui fait qui joue aussi forcément un peu avec les réactions de ces derniers jours de ces dernières semaines qui troll un petit peu en quelque sorte hein, ouais, il dit ah Roman Reigns il pourrait bien avoir la ceinture il pourrait en avoir s'il en a deux il pourrait en avoir trois après tout pourquoi pas alors c'est vrai que c'est, tu t'imagines l'image tout droit sortie des enfers de dire déjà qu'on se dit que Roman Reigns trust le titre alors s'il chope le troisième titre qui vient d'être créé quelle catastrophe s'abattrait sur, sur la WWE donc c'est moi je trouvais que c'était assez marrant de voir Paul Heyman s'amuser de tout ça puis au final finalement, on se demandait quand même un petit peu où est-ce qu'on allait avec ce segment, parce que bon, voilà, c'est rigolo. On positionne aussi Seth Rollins d'une certaine manière un petit peu dans l'inconscient collectif sur le plus long terme comme bah ouais, c'est cet adversaire un petit peu que Roman Reigns devrait craindre, hein, qu'il n'a jamais vraiment, qu'il n'a jamais vraiment battu au cours de son règne historique. Donc c'est ça me plaît bien aussi. Mais ce qui me plaisait un petit peu moins, c'était... alors, je sais que Triple H, s'il était face à moi, si j'avais le plaisir de pouvoir échanger avec lui, me dirait que non, 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 les nouveaux rosters ne prennent effet qu'à partir du 8 mai, la semaine prochaine à Backlash. Mais je trouve ça quand même emmerdant, visuellement et même dans la dynamique du show, que voilà, ces shows qui sont entièrement consacrés à cette draft, à ces nouveaux transfuges et tout... Ben finalement, on démarre l'émission avec Paul Heyman qui n'est censé ne plus être à Raw depuis vendredi dernier. Ben hop, qui est-ce qui ouvre le show ? C'est lui. Et puis ensuite, derrière, on va nous booker un match fatalement interbrand, hein, parce que Solo Sikoa non plus n'est plus censé être là. Donc Seth Rollins, Solo Sikoa, c'est un peu un match sans lendemain, en quelque sorte, qu'on nous book, et qui, d'une certaine manière, je trouve, tue un petit peu le... C'est assez court-termiste, encore une fois. On va booker ce qu'on peut booker, parce que de toute façon, tout ce qui se passe jusqu'au 8 mai, ça sert à rien, donc allons-y. Donc c'est plus c'est un petit peu les retombées de ce segment qui, moi, que j'avais trouvé assez marrant, et puis qui, au final, retombe dans ce que je reproche depuis maintenant 2-3 semaines, qui est que tout ce qu'on regarde, là, globalement, ne sert à rien, quoi. Vivement la semaine prochaine, qu'on puisse enfin démarrer quelque chose, puisque, manifestement, c'est la semaine prochaine que ça va se jouer, quoi.
Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, c'est Solo Sikoa, c'est un peu devenu le nouveau main event chez Uso, c'est-à-dire on lui envoie faire des matchs de gala pour finir les shows, contre les babyface des différentes... section, mais oui, c'est juste un match de gala, là, histoire de dire, ah tiens, il y a un top face et un top heel qui vont se croiser, et ça donne envie, parce que ça fait un beau match, mais effectivement, il n'y a pas vraiment de progression. On est bien d'accord. Alors, dans les rivalités, il y a quand même des ceintures qui sont tout ça... Au milieu de tout ça, à la WWE, il y a les ceintures tag team féminines, donc les championnes, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, qui affrontent une partie du Damage Control, donc qui affrontent Bayley et Dakota Kai. Un petit match qui dure un petit peu moins de... qui dure 8 minutes, très exactement. 8 minutes 5. Et qui va se conclure sur la victoire de Bayley et Dakota Kai, alors que Liv Morgan réussit à placer son Oblivion, mais elle est prise dans une espèce de roll-up, hein, il faut dire ce qui est. Donc les championnes ont perdu, ah là là, elles se désolent, elles se lamentent, et je pense qu'on positionne des challengeuses, là on va continuer avec le damage control, mais en inversant un petit peu les rôles, voilà, puisque Io Sky est partie ailleurs, donc est un petit peu plus haut dans la carte maintenant, donc c'est Bayley qui se retrousse les manches et qui va sur la scène tag team.
Et ouais. C'est ça. Écoute, il va peut-être falloir qu'ils se décident, un de ces quatre, hein, de ce qu'ils veulent faire, parce que c'est difficile à suivre. Enfin, c'est difficile à suivre pour ceux que ça intéresse, hein, parce que c'est vrai que moi, c'est bon. Bon, encore une fois, moi, hein, comme la semaine dernière, moi, j'y arrive plus. Hein. Donc, je zappe les matchs. Hein. Je vais jusqu'au finish et je regarde ce qui se passe. Alors, j'étais assez surpris, pour le coup, et en effet, Damage Control qui gagne, alors que... finalement, à 3, elles sont infoutues de gagner quoi que ce soit depuis 8 mois. Et par contre, en équipe, quand elles sont que 2, ça fonctionne. Sauf qu'en fait, depuis WrestleMania, tout ce qu'on essaye de nous expliquer, c'est que Bayley a l'air de causer un petit peu des problèmes dans le trio, que c'est elle qui fait toujours perdre les deux autres et qu'elle ferait mieux peut-être de s'en débarrasser. Et puis finalement, bah là, C'est elle qui fait gagner le match et qui repositionne son équipe en tag team, peut-être pour un title shot derrière, alors que tout semblait indiquer qu'on allait vers une implosion et elle faisait que de perdre de toute façon. Donc c'est un peu difficile de comprendre finalement à quoi ils jouent avec Damage Control, puisque bon, on les voit difficilement quand même reprendre les ceintures par équipe. Mais bon, après tout, pourquoi pas, écoute. Bon, je sais pas, là-dessus, j'ai un petit peu du mal à engager énormément d'intérêt et d'émotion dans ce qui se passe, surtout que ouais, j'ai l'impression qu'on souffle un peu le chaud et le froid. Les championnes qui perdent comme ça, de manière très très lambda, sur un roll-up en weekly, je trouve que c'est naze, de manière générale. On a l'impression qu'ils savent pas booker des title shots chez les filles autrement que toujours par la championne qui va perdre. Il n'y a jamais vraiment de storyline, quoi. Donc voilà, on est encore dans ce scénario très très classique. À voir ce qui en découlera, pour encore une fois, pour ceux que ça intéresse, quoi.
Alors oui, je trouve que tu conclus bien, effectivement. Pour ceux que ça intéresse, et je suis un peu comme toi, hein, la division tag team, il y a des hauts, il y a des bas, mais clairement la tag team féminine en plus, c'est d'un intérêt très très mitigé. Donc bon, écoute, à voir au moins s'ils rebattent un petit peu l'ordre des hiérarchies dans le Damage Control en mettant Bayley là-dedans. Peut-être que ça peut donner autre chose. À voir. De toute façon, la soirée, clairement, l'intérêt, c'est surtout les segments draft, hein, avec à chaque fois des Hall of Famers qui viennent taper un petit chèque. Donc, le duo suivant, c'est Booker T et Charnel, qui viennent nous annoncer... alors là, c'est la grosse moisson, hein, ce draft-là.
Oui. On c'est a... la très grosse moisson.
Voilà, alors, pour Raw, on va récupérer à Raw les champions, Sami Zayn et Kevin Owens, donc hop, deux d'un coup. Et on va envoyer aussi à Raw tout le Judgment Day pour rejoindre Rhea Ripley, donc ça a une certaine logique. À SmackDown, oui. Les Usos, voilà, hein, finalement toute la tension qu'on avait sur les Usos, oui, je ne l'ai pas détaillé, mais Paul Heyman, il a commencé en introduction par dire, voilà, les Usos n'ont pas gagné, n'ont pas repris les titres, oui. Hein, donc il y a quand même une certaine tension dans la Bloodlines, mais les Usos finalement vont à SmackDown, hein, ils pourront régler tout ça en famille, et SmackDown prend aussi tout le Latino World Order, tous les Rey Mysterio, ouais. les Legado del Fantasma, Zelina Vega, pouf, allez hop, les Mexicanos dans le bus.
Voilà. Ils ont tout compris, SmackDown. Enfin, je ne sais pas qui gère du coup la draft de SmackDown. On ne sait pas ça, mais en tout cas, le mec, il a tout compris. Il s'est dit, ah, tiens, je vais en prendre 5 d'un coup. Donc c'est drôlement bien joué de sa part. Après, le Judgment Day, ouais, t'as dit, c'est logique parce qu'ils suivraient à Ripley. Mais c'est vrai qu'encore une fois, en fait, bon, j'imagine que ça ne sert à rien de s'attarder sur toutes les incohérences qu'implique cet exercice de draft made in WWE.
J'ai craint qu'on n'ait pas le temps. Ouais,
ouais, en fait, on n'a pas le temps. Donc oui, c'est sûr qu'on ne va pas se prendre la tête avec ça. Et on sait que pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, parce que ça permettait de mettre Rhea Ripley top pick. Donc c'est un petit effet d'annonce, ça fait plaisir et tout. Mais depuis le début... Alors, ils passent leur temps à nous dire que toutes les factions peuvent être séparées, que toutes les équipes peuvent être séparées, là, là, là. En fait, ce qu'on va comprendre à la fin de la draft, c'est qu'aucune faction, aucune équipe n'est séparée. Donc, c'est quand même...
Non.
Voilà. Et surtout que toute la draft, elles sont toujours piques tout ensemble à chaque fois, sauf le Judgment Day. Donc, il y a eu... Voilà. Que lui a eu le droit à être séparé. Donc, peut-être que à l'éminence grise qui est dans la War Room de Monday Night Raw qu'il faut poser des questions, puisque finalement il a gaspillé deux pics pour là où SmackDown ne s'est pas embarrassé, tu vois, eux ils ont pris toute la LWO en un seul pic. Finalement le mec qui gère SmackDown, on ne sait pas qui c'est, mais moi ce que ce tour de draft me dit, c'est que le mec de SmackDown n'est pas con, voilà, c'est tout.
Bon, en tout cas oui, ça nous a fait aller un peu plus vite dans ces histoires là et ça nous a permis peut-être de laisser plus de place au catch. Non, pas forcément, puisque le match suivant verra Braun Strowman et Ricochet affronter la Alpha Academy avec la présence de Maxine Dupri, toujours dans les parages. Voilà, un petit match de 2 minutes 30, très très court, qui finit avec le désormais très visuel segment de Ricochet qui fait un Senton Bomb depuis les épaules de Strowman, sur Otis quand même, et qui donne la victoire donc à son équipe. Équipe qui, si ma mémoire est bonne, aucune des deux équipes à l'heure actuelle n'était encore placée dans un roster, mais voilà, on est dans la mid-card de tag team.
Je crois que Ricochet et Braun Strowman... Ah non, t'as raison, c'était plus loin dans l'émission. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, personne n'était placé à ce moment-là.
Bon.
Ça a dû donner du grain à moudre aux sélectionneurs de Raw et de SmackDown qui ont dû forcément apprécier la performance. Donc,
Non, tu penses? Ça a joué quelque chose? Ça a eu un quelconque intérêt
Ah,
ce match?
bon,
Ah ouais.
c'est sûr, ça ne peut. Bah, j'espère que forcément ils ont regardé de manière attentive pour déterminer. J'imagine que Raw a voulu sélectionner Braun Strowman et Ricochet et surtout pas l'équipe perdante, parce que ça semble logique, quoi.
Ah bah écoute, ça on va le savoir un petit peu plus tard. Bon, rien de spécial à dire sur ce match-là?
Non, écoute, bah c'est dans la lignée de ce qu'on a eu à SmackDown aussi. Hein. C'est beaucoup de matchs de remplissage entre les annonces de pics de draft, donc pas grand chose à souligner, si ce n'est ce finishing move de Ricochet qui, c'est vrai, est assez plaisant visuellement. Donc voilà.
Alors la prochaine pick va être annoncée par Shawn Michaels et Adam Pearce. Mais Adam Pearce, depuis le début de la soirée, il veut du calme. Il a croisé Cody Rhodes en coulisses. Il lui a demandé de rester calme. Mais finalement, bah, avant même que ce pic commence, Brock Lesnar débarque sur le ring. Le temps de dire au public du Texas qui regardait, les gars, je suis le seul vrai cowboy dans cette ville et dans cette salle. Donc, plutôt un positionnement détestable de Brock Lesnar. Adam Pearce envoie toute une foule d'agents de sécurité, une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas combien ils sont. Cody Rhodes arrive par derrière, il attaque Lesnar par derrière, le temps de lui mettre un petit coup de genou. Mais finalement, les agents de sécurité réussissent pour une fois leur rôle. Incroyable. Ni Brock Lesnar, ni Cody Rhodes n'en viendront vraiment aux mains. Les agents de sécurité réussissent à les dissuader, à les séparer les uns des autres. Donc, bah écoute, première grosse surprise, voilà, finalement, les agents de sécurité, ça sert à quelque chose, mais il suffit d'en mettre deux fois plus que d'habitude.
Exactement, exactement. Alors moi, j'étais en effet très très surpris par l'efficacité de l'équipe de sécurité texane. J'ai presque envie de dire à la WWE il faut les embaucher full time. Hein. C'est cette équipe-là, parce que c'est la première fois, je pense, ça se fait de manière aussi propre. Donc bravo, bravo à eux. Sinon, sur le segment en tant que tel, ouais, écoute, c'était un petit peu une redite, on va dire, de la brawl précédente, mais finalement moins intense et moins physique, donc moins bien. Donc c'est vrai que tu te dis, bon, en termes d'escalade, c'est pas fantastique, mais bon, ok, soit. Après, c'est vrai que l'intervention de Brock Lesnar était assez. Moi, m'a fait plaisir, parce que du coup, tout ce qui pouvait interrompre cette mascarade de draft me réjouissait, et c'est vrai que c'est à ce moment-là de l'émission, je me dis, putain, enfin, il se passe quelque chose, parce que c'est vrai que c'était la première. C'est le premier petit moment un peu what the fuck, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer et tout. Donc tu te dis, putain, enfin, il va se passer un petit truc. Au final, il ne s'est pas passé non plus grand-chose, mais bon, ok. Et donc, bah voilà, écoute, on continue ce build-up. Brock Lesnar, Cody Rhodes, même si, voilà, moi j'aurais bien aimé. C'est vrai que quand j'ai vu Brock Lesnar arriver, je ne sais pas si toi tu t'es fait un peu cette réflexion, je me suis dit, ah tiens, cool. Enfin, tu vois, enfin, on va peut-être savoir pourquoi est-ce que Brock Lesnar s'est attaqué à Cody Rhodes, quoi, parce que. C'est aussi intéressant, tu vois, dans un build-up de match et tout, avec le pay-per-view qui arrive, peut-être d'avoir les motivations de l'attaque, tu vois, ce serait pas mal, hein, pour nous impliquer aussi un petit peu dans l'histoire et dépasser un petit peu ce clivage face-heel, ça se tape dessus. Mais non, on n'aura pas ça, on n'aura pas d'explication, on n'aura pas de brawl, bah on avait juste le droit un peu de ronger notre frein cette semaine. Et d'admirer le travail de l'équipe de sécurité.
Voilà, c'est ça. Je pense que le boulot était de créer la frustration, de créer l'envie, de créer le let them fight. Bon, en soi, moi, je trouve ça pas plus mal parce que s'il y avait eu un énième baston avec la sécurité tout autour qui prenait sur la gueule, ça aurait été hyper répétitif. Alors là, c'était pas passionnant, effectivement, mais au moins, voilà, ça a créé une tension de dire ils vont vraiment se mettre sur la gueule. Bon, effectivement, on ne sait toujours pas pourquoi Brock Lesnar, mais je pense qu'il s'en fout, il veut pas nous le dire, hein, il choisit au pif, et puis voilà, ça va se taper dessus à
Ouais.
Backlash.
Sans
Faut pas
lui,
oublier
il est
qu'on est.
free agent, il explique
Voilà.
rien, il s'en fout.
C'est ça, il faut pas oublier qu'on est aussi dans un contexte de Go Home Show, hein, pay-per-view,
Et
le
oui.
Premium Live Event, il est ce week-end, à Puerto Rico. Tout ça laisse Shawn Michaels pour annoncer les drafts suivantes. Donc, bah, il y va, ce bon vieil HBK. Il nous annonce que les champions féminines vont à Raw, donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez, ainsi que les anciens champions tag team historiques, légendaires au règne de légende, le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston vont à Raw. Du côté bleu, on récupère tout de même Asuka, une grosse pique. Et les Brawling Brutes au complet. Donc là, effectivement, tu as raison, les équipes ne se séparent pas. Le mec de SmackDown, il a bien raison. Il prend Ridgeland, Butch et Sheamus. Qui donc
Ah bah, tu m'étonnes.
C'est quand même une nouvelle, donc s'éloigne de Drew McIntyre qui lui a été choisi à Raw.
Et oui, c'est la fin du Honorary Brute de Drew McIntyre. Donc c'est en effet une des infos à retenir. C'est une des infos à retenir. Et puis sinon, bah écoute, pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Enfin si, d'une certaine manière, si Asuka quand même fait le voyage à SmackDown, donc va suivre son ami Bianca Belair. On attend toujours d'ailleurs un petit peu des retombées post-WrestleMania, est-ce qu'il y en aura, parce que Asuka avait un peu disparu des radars depuis, mais sinon les Brawling Brutes ne bougent pas trop, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, bon c'est pas trop, tout sont listés un peu partout, donc ça se fixe on va dire en quelque sorte un petit peu, mais ouais rien de bien fantastique en termes d'implication, si ce n'est que la question commence à se poser. Les deux titres par équipe, masculin, féminin, oui, sont donc désormais à Monday Night Raw, qui pouvait être une petite surprise, on va dire, quand on apprend que Liv Morgan et Raquel Rodriguez sont à Raw aussi. Donc voilà, que va-t-il se passer? Historiquement, il y avait toujours cette sorte de règle qui les arrangeait bien, qui sortait du chapeau un peu de temps en temps, qui est que les ceintures par équipe féminine pouvaient être défendues n'importe où, n'importe quand. Bon, avant avec les titres Raw, SmackDown, chez les hommes, c'est un peu différent, parce que comme c'était le Undisputed Raw et SmackDown, on pouvait facilement suspendre notre crédulité en se disant « Bah oui, de toute façon, c'est les champions de Raw et de SmackDown, ils peuvent aller partout. » Là, rien n'a été mentionné. D'ailleurs, j'étais un peu surpris, ça n'a pas trop été mentionné par la broadcast team. Qu'en est-il? C'est une autre des questions qui se posent avec la draft maintenant, avec l'effet Bianca Rhea Ripley aussi à gérer. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça.
Beaucoup de choses à gérer chez les filles, hein. Et oui, si c'est pas les commentateurs qui le mentionnent, c'est catch-up. Hein. Nous, on est dans l'analyse, on va beaucoup plus loin que cela. Donc, nous avions un match annoncé de longue date hein, dans ce show. C'était l'affrontement entre Jimmy Uso et Matt Riddle, qui se retrouve donc pour Matt Riddle entouré par Kevin Owens et Sami Zayn, donc les champions. Jimmy Uso, lui, il est avec son jumeau, Jay, mais pas avec Solo Sikoa, qui n'est pas là. Et ils se font avoir par le nombre, les Uso, et par une petite fourberie façon Eddie Guerrero, là, où Sami Zayn lance une chaise à Jey Uso, qui l'attrape au vol sans trop comprendre, pendant que Kevin Owens se roule au sol de douleur. Et donc l'arbitre croit qu'il y a eu baston à l'extérieur du ring, il expulse Jey Uso, le pauvre est tombé dans le piège. Et pendant ce temps, Matt Riddle, donc à l'issue d'un match qui durera un petit peu moins de 8 minutes, réussit à battre Jimmy Uso avec son floating bro, je crois. Je ne sais plus ce qu'il fait. Oui, ouais, c'est ça.
C'est exactement.
Et exactement. Jimmy a perdu. Ça n'avance pas grand-chose, mais ça accumule de la frustration chez les Uso. Bon, Jey Uso, il a l'air un petit peu de s'en foutre. Il va dans les vestiaires, il croise Solo Sikoa, il applaudit, il est content. Il dit « Hey, 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 les gars !» Mais il vient quand même demander pourquoi il n'était pas là, Solo Sikoa. Alors, Heyman, il dit « Écoute, Roman Reigns, le Tribal Chief, il veut que Solo, il se concentre à fond. » Sur son match de ce soir, sur le clown Seth Rollins. Mais ils lui disent « Allez, on te laisse tranquille, voilà, on s'en va. » Sikoa et Man s'en vont, ils laissent Jey Uso tout seul. Donc vraiment, la Bloodline, ça prend un peu l'eau. Roman Reigns ne vient toujours pas. Et puis par contre, avec toute cette petite team-là, qui vont s'affronter à 3 contre 3 à Backlash, on enchaîne les solo matchs ou autres qui n'ont toujours pas grande conséquence, hein, pas grand intérêt même.
Non. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça exactement. Même si... Bah voilà, tu t'as rappelé un petit peu tous les éléments scénaristiques, c'est-à-dire que quand même ce match a une raison d'être dans l'histoire qui est que bah voilà, le chapitre on va dire de cette semaine, c'était on sent que Solo Sikoa prend énormément de distance hein, avec ses deux frères de plus en plus par gain personnel, par respect pour le Tribal Chief, on ne sait pas, mais on sent que Solo Sikoa a vraiment toutes les faveurs de Roman Reigns et se positionne de plus en plus comme son bras droit et son homme de confiance pour exécuter un petit peu les missions. Et donc voilà, il veut pas qu'il soit pollué un petit peu par ce qui est en train d'être vraiment dépeint comme deux perdants qui sont un petit peu à un pied dehors de la Bloodline, ou en tout cas pas loin d'être éjectés. D'une certaine manière, comme à SmackDown, hein, sur cet épisode de draft, rien n'a vraiment de conséquence, si ce n'est c'est toujours cette histoire de Bloodline qui tient le show, parce qu'il y a ce fil rouge en début, en milieu et en fin d'émission qui font que, de toute façon, s'il n'y avait pas la Bloodline, il n'y aurait vraiment pas grand-chose à regarder. Ouais, moi ça m'a pas déplu foncièrement, je trouve ça amusant de jouer voilà, juste sur cette... sur ce dysfonctionnement interne de la Bloodline en y ajoutant un nouveau biais, parce que jusqu'ici, c'était induit par Sami Zayn qui venait un petit peu parasiter l'esprit des Usos. Et maintenant, c'est aussi, finalement, ça vient aussi de l'intérieur avec une sorte de guerre d'influence, finalement. Hein, Solo Sikoa qui est contre ses frangins, peut-être. En tout cas, voilà, on plante un petit peu des graines. Donc, ça, voilà un vrai élément de build-up, on va dire, un petit peu en amont de ce 3v3 à Backlash, que je trouvais pas mal, moi. Ouais.
Oui, effectivement, on sent qu'on se déplace. Hein, on déplace le centre de gravité de l'histoire de la Bloodline, du problème canadien qu'ils avaient avant, vers une histoire interne où Roman Reigns promeut Solo Sikoa et en fait veut pas trop regarder les deux autres là qui sont un peu en train de réclamer l'attention. Donc ça, voilà, ça progresse doucement, mais c'est vrai que ça donne pas grand-chose. Et puis bon, bah, Riddle s'est greffé au milieu de tout ça, histoire de lui trouver un truc à faire. Quoi.
C'est ça.
Voilà. La draft continue. Allez, Eric Bischoff et Rob Van Dam qui vont nous annoncer des choses passionnantes, figure-toi. Alors ça va. Alors là, le booker de Raw, visiblement,
il a rien compris, le booker de Raw.
C'est pas un de tes potes. Le booker de Raw, il récupère Trish Stratus. Alors voilà, Trish Stratus qui est quand même Hall of Famous.
Contrat de légende, donc a priori, rien à voir. Ouais.
Voilà, rien nous dit que la meuf sera là dans un peu plus de 3 semaines. Mais bon, voilà, écoute, ça a l'air parti pour. Et il ressort du placard Shayna Baszler et Ronda Rousey, pareil, qui vont à Raw. Okay.
Ouais.
Bon, le mec de SmackDown, lui, il a des goûts un peu différents. Ouais, pas bon. Ouais. Il prend Karrion Kross, donc ce qui nous...
Surprenant.
Bah voilà, ce qui nous fait dire que la feud débutante contre Nakamura, bah, elle est déjà enterrée, hein, puisque Nakamura est à Raw. Et LA Knight, qui est quand même une grosse
foule du moment.
Ça, c'est un bon pic. Ça.
Ouais, ça, c'est un bon pic. Non, mais SmackDown fait le taf, hein, depuis le début de la soirée. Ils ne gaspillent pas leur pics en séparant des factions. Et ils ne piquent pas, en effet, des légendes qui ne servent à... Enfin, qui potentiellement ne seront plus là dans 2 mois. Ni une équipe avec une nana qui est blessée et qui ne peut pas catcher. C'est vrai que c'est... Là, il faut quand même commencer à se poser des questions sur l'éminence grise qui pique pour Monday Night Raw. C'est pas très sérieux, tout ça.
Bah ouais, j'espère qu'il se fera virer, mais on fera un bilan après à la fin de toute cette draft. En attendant, nous avons droit à un Miz TV, qui est officiellement à Raw et qui accueille Shinsuke Nakamura, un nouvel entrant de Monday Night Raw. Le Miz qui dit qu'il est lui-même un des favoris pour le titre champion du monde poids lourd là, qui va bientôt être décerné, mais il pense que Nakamura pourrait être un très bon deuxième de l'émission de Monday Night Raw et donc ils pourraient s'entraider tous les deux. Nakamura dit que le Miz il est connu, il est réputé et qu'il est réputé pour un certain terme, donc en japonais. Voilà, il dit une phrase en japonais que j'ai déjà pas retenu. Le Miz aime bien comment ça sonne, il dit oh, ça sonne bien, il le reprend et le scande, il le fait un peu scander à la foule. Évidemment, on avait tous compris 10 minutes avant, mais quand il demandait ça veut dire quoi, et ben Shinsuke Nakamura lui dit bah, ça veut dire tiny balls. Et la foule ne reprend pas du tout les chants que lançait Nakamura sur le terme en japonais, hein, c'est trop compliqué de dire 3 syllabes en japonais. Le public préfère le dire à la française, tiny balls. Petit Kinshasa pour le plaisir, et puis on s'en va, même pas de match, même pas de rien de spécial entre les deux hommes, pas de programme à Backlash, juste effectivement Nakamura, normalement ce vendredi, affronte Karrion Kross, pour une feud sur laquelle il n'a même pas réagi lui-même d'ailleurs. Hein, donc,
il s'en fout, de toute façon, il sait que ça comptera pas.
Oui, voilà, tout ça est passionnant.
Oui, passionnant. Passionnant. Après, voilà, je pense que les segments parlent d'eux-mêmes, hein, mais on est vraiment sur des émissions compliquées à regarder, compliquées de s'investir. Donc, au-delà du. Parce qu'on pourrait juste balayer d'un revers de main ce segment, mais c'est vrai que moi, il m'a quand même pas mal agacé. Parce que déjà, il mentionne le titre poids lourd. Et ça m'a, pour le coup, ça m'a vraiment fait chier parce que je pense qu'il y a vraiment, alors moi, on en a déjà parlé dans les reviews précédentes, je pense qu'il y a vraiment un truc très très cool à faire avec la réactivation de ce titre qui a fait les grandes heures de SmackDown, qui va peut-être faire les grandes heures d'Euro. C'est un titre assez légendaire quand même dans l'historique du début des années 2000 de la WWE. c'est un titre qui, je pense, est nécessaire. Et pour le lancer sur de la meilleure des façons, je pense que tout le monde, en fait, devrait courir après. Ça devrait être un point focal, mais ça devrait être un point focal de manière sérieuse. C'est-à-dire, bah voilà, Seth Rollins, par exemple, quand il arrive, lui, il pense qu'à ce titre et il ne fait que d'en parler. Et j'aimerais qu'on évite de mêler ce titre à des segments comme celui-ci, de blagues sur les couilles du Miz, et de trucs un peu humoristiques à la con, avec un mec qui ne peut pas aligner trois mots d'anglais. Ça me fait chier parce que je me dis, voilà, là, déjà, tu commences à déconstruire un peu le boulot. Tu dis, s'il y a des clowns comme ça qui peuvent aussi prétendre au titre, c'est pas bon, quoi. Donc ça m'a, c'est plus pour ça que ça m'a fait chier. Parce qu'après, écoute, s'ils veulent continuer à faire des blagues sur les couilles du Miz, ils peuvent. Hein. Moi, parfois, ça me fait rire. Là, ça ne m'a pas fait rire parce que bon, c'était plus gênant qu'autre chose. Pauvre Shinsuke, pas du tout réussi à embarquer le public. Alors après, peut-être qu'au Texas, ce n'est pas le meilleur endroit pour en effet sortir de l'anglais. Hein, parce que je pense que les gars, trois syllabes, c'est beaucoup trop.
Bah déjà, l'anglais lui-même doit être difficile parfois, donc
Déjà, l'anglais est compliqué, mais en plus, si tu veux leur faire parler une langue d'un pays qui pense être une ville d'Amérique du Sud, tu vois, enfin, je pense que les mecs sont. C'est foutu pour eux, quoi. Et donc ouais, c'était plus gênant qu'autre chose. Mais voilà, moi, c'est plus cette discussion autour du titre poids lourd qui m'a vraiment fait chier. Et ça fait partie vraiment des points négatifs, je trouve, de ces deux dernières émissions qui ne mettent pas du tout l'emphase. Enfin, ils devraient y aller à fond les ballons, quoi. Sur cette ceinture, il faut que ce soit le truc le plus important sur le mois à venir, quoi. Et on n'y est pas trop, quoi.
Ouais, t'es dur avec le Miz qui est quand même double Grand Slam champion et qui
Bien
aura sa
sûr, bien
place
sûr.
s'il y a un tournoi ou un match. Mais bon, je comprends que là on soit plus dans la mid-card et que ça n'est pas. On sait que ça aura pas beaucoup de conséquences. On imagine mal l'un des deux avoir une vraie place prépondérante dans le lancement
Bah
de
oui.
cette ceinture, ouais, évidemment. Bon, bah, toujours dans l'avancée de ce show, nous avons Omos qui arrive avec MVP et qui bat un jobber local en. J'ai un timing sous les yeux en 49 secondes. Hein, et ça, moi aussi, ça me fait chier. D'abord parce que Omos est censé avoir un match contre Seth Rollins à Backlash.
Ah,
C'est le
merci,
match.
merci de t'en souvenir. Je crois que t'es un des seuls à t'en souvenir. Ouais.
C'est le match le moins buildé de l'histoire de la WWE, j'ai l'impression. Et en plus, Omos et MVP sont censés avoir négocié eux aussi un statut de free agent. Je m'attendais à ce
Oui, c'est ça.
qu'ils viennent nous en parler, à ce que MVP
Ah
vienne
oui.
nous en. Eh ben non. Bizarre, hein? Qu'est-ce qui s'est
Ah
foutu
ouais.
là? Encore de la merde.
Bah, je sais pas. Je sais pas. Mais en effet, c'est voilà, t'as tout résumé. Homo, c'est venu faire coucou, mais enfin, c'est quand même ouf, quoi. Enfin, moi, je trouve ça. En vrai, je trouve ça hallucinant, quoi. On est à quelques jours d'un pay-per-view. Il a un match. Et on n'en parle même pas. Je me demande même s'ils ont mis le graphique du match. Enfin, franchement, c'est assez fou. Seth Rollins n'a pas mentionné Omos dans son propos introductif. Omos n'a pas mentionné Seth Rollins. MVP n'est pas venu parler du statut de free agent du tout, quoi que ce soit. Enfin, en fait, on s'en bat les steaks de tout, quoi. Enfin, genre, il y a absolument toutes les règles de base, j'ai l'impression, volent par la fenêtre. Voilà, on est en roue libre totale à la WWE en ce moment. Donc, bah voilà, rien, on ne sait pas, on n'en sait pas plus.
Ouais, puis moi je suis quand même franchement déçu, ouais, parce que quand j'ai vu arriver, ils l'ont filmé dans les vestiaires arriver, au moins je me suis dit, ah ben on va avoir un truc, on va avoir ce truc de
Ah
free
oui.
agent, on va jouer un peu avec. Au moment, que dalle. Sachant qu'il n'est pas le seul, hein, il y a quelques free agents officiellement depuis la dernière
Effectivement.
pick, notamment Dolph Ziggler, et puis il y en aura d'autres
C'est
à la fin ce
ça.
soir. Mais bon.
Mustapha Ali, manifestement.
Ouais.
Et puis il y en aura d'autres après ce soir. Oui, tout à fait.
Ouais. Parce qu'il y a encore une nouvelle session de draft avec Molly Holly et le Road Dogg. Raw se débrouille pour récupérer justement Braun Strowman et Ricochet. Voilà, ça c'est booké. Et Bronson Reed. On a quand même
Tiens,
Là, on a de la viande.
gros pic.
Ouais.
Ah ouais, là c'est des gros pics.
Là,
Alors
c'est des gros.
SmackDown, il chute un peu là.
SmackDown, il chute puisqu'il choisit
Ouais.
Shotzi.
Ouais. Choix
Shotzi qu'on n'a
étrange.
pas revu depuis très longtemps, pareil, et qui, bon, bah. Shotzi. Et une montée de NXT, les Pretty Deadly. Donc, on va en parler plus loin, mais dans ce draft, les scènes tag team de NXT, masculines comme féminines, on va bien taper dedans. Donc, les Pretty Deadly vont arriver à SmackDown. Voilà. Est-ce que
Et
tu
oui.
as des réactions là-dessus?
Alors ouais, enfin ouais, bonne chance à eux. Je les connais
Ouais.
pas trop. C'est vrai que j'ai vu quelques petits extraits. Enfin, manifestement, on est sur un style un peu de ce que pouvait peut-être faire par le passé Fandango et Tyler Breeze.
C'est un peu ça, ouais.
C'est un peu dans l'esprit, donc c'est pourquoi pas, s'ils ont leur imaginaire, leur gimmick qui est bien campé, et qu'on leur donne un petit peu leur chance et que ça marche bien, écoute, on verra bien, mais c'est pas, ça va pas être simple, hein, c'est sûr. Hein, la division tag team pour le coup masculine à la WWE est quand même assez stacked. Je pense que ça va quand même pas être facile pour eux de venir se faire une place, mais bon, écoute. Why not? C'est une tentative. Par contre, ouais, alors Shotzi, qui est cité dans la draft, c'est vrai que c'est du coup, moi, ça m'inquiète plus qu'autre chose parce que j'ai peur du rôle qu'elle peut être amenée à jouer à SmackDown. Parce que vraiment, cette nana, je comprends pas quoi. Mais donc, en fait, faut quand même se dire qu'elle est du coup, elle est peak. Si tant est que ça ait une importance, hein, mais on va jouer le jeu de la WWE, on va se dire que c'est important. Mais du coup, elle est quand même pique avant des nanas comme, d'une certaine manière, Dana Brooke, qui est une vétérante assez solide, Nikki Cross, Piper Niven, qui semblait avec un petit peu le vent en poupe avant WrestleMania.
Natalia aussi.
Ce que j'allais te dire, ouais, elle est pique avant des gens comme Natalia, comme Sonya Deville, comme Chelsea Green, comme Candice LeRae d'une certaine manière, donc ça me fait un peu flipper, tu vois, de me dire quand même que elle est citée dans la draft avant tout ça, Lacey Evans aussi peut-être, pourquoi pas, donc ouais, c'est plus le message que ça renvoie qui m'inquiète, parce que vraiment cette machine à botch là me fait plus flipper qu'autre chose, mais voilà. Et puis sinon, ouais, bon pic de Raw avec de la viandasse, comme tu disais. Ouais.
Ouais, bon, je pense que l'histoire nous a prouvé, hein, ces dernières années, que l'ordre des pics, on va en faire un peu.
Non, mais bon, j'essaye de jouer le jeu. Hein,
Excuse-moi,
t'as bien raison. Il paraît que c'est important, je sais pas.
Ouais. Bah, Shotzi, il y a un mec à SmackDown qui doit avoir un truc que nous ne voyons pas.
Ouais,
Shotzi.
Ouais.
Bon, en tout cas, nous avons un regroupement du Judgment Day à Raw, ça on l'a dit. Et donc, les voici au complet. On a le Judgment Day qui arrive. Ils sont très fiers, hein, d'être toujours unis. Ils ont dû avoir très très peur, les pauvres. Et puis, bah, il félicite Rhea Ripley quand même. Mami is always on top. Rhea est toujours la première, toujours sur le dessus. Et voilà, donc tout le monde va un peu parler. Rhea Ripley, bon, nous dit qu'elle va démonter la tronche à Zelina Vega, qu'elle va en faire des petits morceaux. Déjà que le seul qu'on connaît, il n'est pas très grand. Mais si elle va en faire plusieurs, ça va faire des morceaux. Finn Balor, pareil. Damien Priest prend le micro pour nous parler de son adversaire du prochain pay-per-view de Backlash, Bad Bunny. Alors, il lui fait une promo entièrement en espagnol, hein, pour lui dire qu'en gros, voilà, Bad Bunny, il va lui casser la gueule et que si c'est un champion très connu de musique, là, entre les cordes, c'est son domaine à lui. Voilà, ça parle sûrement un peu aux latinos du Texas, il y en a pas mal. Et Dominic Mysterio, lui, va réussir à choper quand même un peu de réaction, toute la hit de la foule.
Ouais.
Ah, il est hué, Dominique, il est hué. Et puis, bah, lui, il dit qu'il est très content qu'il ne va pas croiser la route de son père, parce que voilà, il en a marre un petit peu. Là-dessus, bah, ils sont interrompus par justement le Latino clan qui débarque. Rey Mysterio dit que voilà, c'est très très bien de ne pas être avec son fils, parce que sinon, il aurait fini par lui mettre des grands coups de chancla à la place des coups de ceinture.
Et tu sais ce que c'est, toi, le chancla?
Je ne sais pas. Je n'ai pas pensé à chercher. Vous allez nous faire checker, peuple de ketchup. C'est votre boulot un peu. Allez, bossez, bande de feignasses. Et puis lui, il voit Zelina Vega gagner contre Rhea Ripley. Bon, bah écoute, Rey Mysterio, il nous fait un syndrome Rey Mysterio. Il dit, ouais, le petit peut battre le grand, mais enfin quand même. Et on enchaîne donc sur un match mixte. Hein, mixte, intergender, comme on dit. Avec donc le Judgment Day, sauf Finn Balor, qui va affronter donc Rey Mysterio, Santos Escobar et Zelina Vega. Alors là, on est sur du match classique où ça part un petit peu dans tous les sens. Rey Mysterio, il aide Zelina Vega à faire un Hurricane Rana à Rhea Ripley. Ça va se tomber un peu dessus partout à l'extérieur du ring. Et puis finalement, bah, y a des 619 qui sont tentés, qui passent pas. Rey Mysterio, il tente un 619 qui part sur Damian Priest, mais c'est Finn Balor qui se sacrifie. Alors là, il est impressionnant. Il a jeté vraiment la tête, il a pris chaud sur la nuque, Finn Balor. Et ça permet à Damian Priest de porter un gros gros shock slam par-dessus la troisième corde. Beau mouvement, ça. Et ça donne donc une victoire de prestige quand même au Judgment Day, qui, je pense, en avait bien besoin avant ce qui leur attend ce week-end, parce qu'ils seront peut-être beaucoup moins à la fête quand même à Puerto Rico. Enfin, bon, pour Rhea Ripley, on n'est pas trop inquiet.
Non.
Pour Damien Priest, il va se faire un peu
Non.
maraver la gueule, je pense.
Oui, il va se faire fesser. Exactement. Non, mais écoute, ouais, globalement, dans l'ensemble, un segment efficace, on va dire, avec cette promo, voilà, le Judgment Day, comme tu l'as dit, rassemblé à Monday Night Raw. Enfin, on ne bouge pas, en fait. Hein. Enfin, non, mais si, tu verrais à Ripley qui était un peu partout. Enfin, bref, il n'y a pas trop de règles avant, donc on ne savait pas trop. Et donc, cette promo. Ouais, alors bon, il y a à boire et à manger un peu dans la promo, hein, parce que, bon, globalement, c'est pas le build de l'année, hein, Rhea Ripley, Zelina Vega non plus.
Non.
Moi, j'en avais parlé, hein, mais c'est vrai que Zelina Vega, qui gagne la semaine dernière sur un roll-up du bout, enfin, vraiment, tu sens que, enfin, elle est bookée comme une face qui est vraiment qui a gagné et qui gagne par chance, quoi. Et puis après, derrière, dans tous les segments promo, elle se fait démolir par Rhea Ripley qui dit que de toute façon, on va l'éclater et tout. Donc, bon, je pense qu'en termes de pour construire la hype, je pense qu'il y a un peu mieux. Mais bon, ok, soit, de toute façon, c'est pas comme s'il y avait un suspense. Hein, donc, à la limite, ils se voilent pas la face, on va dire. C'est peut-être ce qu'on peut leur reconnaître. Et puis après, sur le reste de la promo du Judgment Day, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai qu'il y avait cette petite escalade de Finn Balor, puis Damian Priest, et puis ensuite Dominic Mysterio, mais qui a chopé une hit, mais enfin. Je pense que Vicky Guerrero était jalouse presque, tellement c'était hallucinant. Et plus il parlait fort, plus ça sifflait fort. Ça, c'était lunaire. Hein. Franchement, rarement vu, rarement entendu des hits pareils. Donc, Dominic Mysterio qui continue de manière presque inexplicable, d'une certaine façon, à attirer une sorte de haine viscérale du public qui est assez folle. Et qui mériterait, je trouve, enfin peut-être qui capitalise même encore un peu plus dessus. Je suis assez surpris qu'il n'ait pas de match à Backlash, enfin qu'on continue un petit peu à jouer sur ce momentum de fou. Mais bon, ça va peut-être revenir après Backlash.
Ils
Là, le
seront dans les
focus était
parages, je
sur.
pense. Ils y seront du voyage.
Oui, non, non, mais ils seront bien évidemment du voyage. Et puis de toute façon, là, c'était peut-être aussi l'occasion de mettre le projecteur sur un autre membre du Judgment Day, Damian Priest, qui jusqu'ici n'avait pas eu beaucoup d'os à ronger avant WrestleMania, clairement, qui jouait le rôle d'enforcer, donc c'est bien pour lui aussi qu'on le build un petit peu. Et puis, bah, écoute, voilà, l'interruption du LWO et ce petit match derrière, mais qui là aussi, hein, il faut quand même, après, voilà, peut-être que ça n'a aucune importance, mais prendre en considération le fait que, bah ouais, tu vois, dans l'histoire, t'as quand même Zelina Vega qui a encore perdu, et je sais pas, il y avait peut-être encore une fois mieux à faire. Je vois pas trop pourquoi il fallait la mêler à ce match-là, en fait. J'ai pas bien compris. Je pense que ça aurait pu être un 3v3 masculin ou un 2v2, que ce serait très bien passé pour donner une victoire à Damian Priest. Mais encore une fois, finalement, voilà, Zelina Vega arrive avec le plus bas niveau de momentum, je pense, qu'une challengeuse a eu depuis très longtemps. En fait, hormis les encouragements de Rey Mysterio, elle a vraiment rien pour elle. Donc, bon, bah voilà, de toute façon. Après, est-ce que le booking de Backlash a-t-il vraiment une importance? Là est peut-être la vraie question.
Ouais, non, c'est peut-être trop perdu au milieu de toutes ces histoires de draft et de post-WrestleMania, tout ça. C'est d'ailleurs la draft continue, hein, juste après, on aura le dernier
Eh oui!
round de la soirée. JBL et Teddy Long. Qui vont nous annoncer encore une grosse session hein, pour finir, hein, puisque à Raw, on choisit Alpha Academy, quand même. Voilà, les perdants de la
Ah,
soirée. Ouais, bah
finalement, il s'est dit je vais prendre les gagnants et les perdants, le mec d'Euro. Il s'est dit je vais tout prendre.
bon, il a
Il a
raison. Hein.
beaucoup, ça lui a beaucoup plu ce qu'il a vu, je pense. Ouais.
Ça lui a beaucoup plu ce qu'il a vu, et visiblement, ça lui a beaucoup plu aussi des choses qu'on n'a jamais vues, puisqu'il va chercher une tag team féminine, Katana Chance et Kayden Carter, qui
Ouais.
rejoignent Monday Night Raw. Voilà, sous les
Ah, ah,
applaudissements
ah.
de leurs confrères et consœurs dans la NXT Room, alors que SmackDown choisit Rick Boogs, le gorille. Donc, on confirme si c'était pas déjà sûr qu'on en arrête là avec Rick Boogs et Nakamura, hein, ça sera plus l'histoire. Et Cameron Grimes qui débarque à SmackDown, alors peut-être là une montée un peu plus attendue, ça fait un moment qu'il est à NXT, Cameron Grimes. Je sais pas si tu le connais un peu plus que ça.
Non,
Mais
pas du
il a
tout.
fait du boulot quand même, il a été face, il a été heel, il a été autour d'une storyline sur la million dollar ceinture de Ted DiBiase, il a eu des matchs un peu cinématiques chelous avec des zombies contre Dexter Lumis, donc ça fait un petit moment qu'il bosse le sujet, mais le voilà qui va
Okay.
tenter sa chance à SmackDown. Les autres, j'avoue que les deux jeunes filles, je ne les connais pas plus que ça, et puis bon, voilà, Rick Boogs, c'est pas non plus une grosse pique pour le moment, mais... Grosse
Non,
pique, pardon.
non. Non, bah ouais, moi, ouais, c'est vrai, moi, je peux pas trop commenter parce que je les connais absolument pas, que ce soit les deux filles ou Cameron Grimes, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais écoute, encore une fois, tant mieux pour eux, entre guillemets, à eux de se faire une place dans la Big League. Mais par contre, le truc que j'avais cru comprendre des commentateurs ou même de la semaine dernière à SmackDown, c'est que je crois que les deux nanas en question, là, donc Katana Chance et Kayden Carter, sont celles qui avaient challengé. Du coup, les championnes par équipe qui avaient été sélectionnées pour aller à SmackDown la semaine dernière. Et du coup, je ne sais pas non plus comment ils vont gérer ça, parce que si à la fois les championnes
Oui.
et à la fois les challengeuses ont été sélectionnées, quel est l'avenir des ceintures de NXT? Bon, non pas que ça m'intéresse fondamentalement, parce que je ne rate pas NXT, mais voilà, ça m'interpellait quand même. Donc peut-être que les amateurs et les aficionados de NXT pourront me dire. Hein, mais...
Alors je crois bien, mais Peuple du Ketchup fact-checkera que pour la ceinture tag team féminine de NXT, je crois que c'est un triple threat ou un fatal four way qui est prévu. Donc je
Ah
crois
ouais,
qu'il y a
bon,
d'autres équipes dans le lot.
ils vont se débrouiller.
Mais ouais, il me semble.
Sont malins.
Avant de passer au main event, oh non, écoute, on va faire le main event en premier, on va le faire dans l'ordre. Main event de la soirée, donc Solo Sikoa contre Seth Rollins. Le temps passé, hein, entrée de Solo Sikoa, entrée de Seth Rollins, il restait plus beaucoup de temps d'émission. Et effectivement, on a eu un match décent, hein, de 10 minutes entre les deux hommes, avec tout ce qu'on peut imaginer à peu près des deux côtés. Seth Rollins qui nous a fait des suicide dives, Solo Sikoa qui a rompu tout ça par une force vive. Mais bizarrement, tout d'un coup, Paul Heyman, on l'a vu au téléphone faire des vocaux, puisque visiblement il aime bien faire des vocaux, Paul Heyman, ça doit être quelqu'un d'insupportable à ce niveau-là. Alors que Solo Sikoa n'était pas spécialement en difficulté, hein, c'était un match très
Non.
équilibré. Et ben les Usos débarquent, et attaquent Seth Rollins, donc disqualification, DQ. Et là-dessus, voilà Matt Riddle et Sami Zayn qui débarquent et Kevin Owens. Et en fait, on coupe en plein milieu d'une phrase de. Enfin, je veux dire, j'ai regardé plusieurs fois si c'est pas mon truc qui a bugué. On coupe
Non,
carrément
non,
sur cette
ça.
brawl en plein milieu d'une phrase de. Je sais plus lequel des deux
De
commentateurs,
Corey Graves, je
de
crois.
Corey Graves, qui dit: Ah, c'est le board. Et ben voilà,
Ah,
c'était.
et voilà, fini.
Et
Allez,
voilà.
allez, on verra ça la semaine prochaine.
Voilà. Donc là encore, moi, ça me sidère quand ils scénarisent leur propre incompétence technique. Je vois pas trop l'intérêt. Voilà, on finit sur un brawl. Petite déception peut-être quand même sur ce segment-là. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans une boucle infinie là, avec tous ces gars. Ça va sûrement se calmer à partir de la semaine prochaine, mais allez, encore Riddle, encore Sami Zayn contre les Usos. Ouais, vivement que ça passe,
Non,
hein.
mais ouais, vivement. Ouais, franchement, ouais, ce segment, je trouve. Alors voilà, bon, bah, tant mieux si ça t'a agacé aussi. Parce que moi, j'ai. Moi, vraiment, j'en pouvais plus quand j'ai fini. J'ai fermé le lecteur. J'ai dit, putain, vraiment, ils se foutent de ma gueule. Ouais, ce main event m'a agacé à pas mal d'égards. Alors, tu l'as mentionné. Déjà, il y a juste la scénographie, en quelque sorte, un peu de cette fin de match coupée, interrompue. Comme tu dis, ouais, presque une mise en scène un peu de leur propre incompétence en quelque sorte, oui, parce que du coup, décidément, ils rendent l'antenne alors que c'est le feu, bon, c'est un petit peu n'importe quoi. Bon, peut-être est-ce dans la tête de certains marketeurs et bookers une sorte de manière imparable de pouvoir ne susciter une excitation ultime de brancher le network samedi pour voir la suite en quelque sorte, mais bon, ok. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est cette impression en fait qu'on perd notre temps vraiment depuis 3 semaines là et que de toute façon pour moi c'était vraiment la démonstration éclatante qu'en fait faut vraiment n'accorder aucun intérêt à ce qui se passe en ce moment et il faut juste attendre que le truc se tasse et qu'on passe à autre chose peut-être lundi prochain puisque les rosters vont entrer en effet la semaine prochaine et qu'on va basculer vers le build-up de Night of Champions avec la nouvelle ceinture avec peut-être les découlés de Backlash et tout. Et en fait, j'ai eu le même feeling qu'à SmackDown. Je sais pas où, donc je sais pas si toi, tu avais eu l'occasion de rattraper SmackDown aussi, mais c'est avec ce côté, finalement, l'épisode de SmackDown de la draft n'avait eu d'intérêt scénaristique que pour la Bloodline, avec ce fil rouge, qui était une sorte de teasing de... comment dire, enfin voilà, on ne savait pas il y avait un peu ce fil rouge étrange à SmackDown de Paul Heyman qui n'arrêtait pas de répéter dans l'oreille de Solo Sikoa Tonight is your night, tonight is the night, machin.
Ah
On se
bah ouais.
disait, mais que va-t-il se passer? Enfin, et puis en plus, il y avait Roman Reigns, c'est Solo et Paul Heyman qui venaient d'être draftés à SmackDown. Les Usos, on savait pas. Il y avait cet énorme main event de WrestleMania rematch comme ils nous l'avaient vendu à SmackDown et tout. Donc, et puis tout voilà, ce Tonight is Your Night machin. Et puis tous les fils rouges en coulisses de oh là là. Bon, on se disait il va se passer un truc de dingue en main event. Tu vois peut-être une péripétie de fou dans l'histoire de la Bloodline. Et en fait, rien du tout. Que dalle, Solo Sikoa qui avait été intercepté en haut de la rampe et en fait le match avait continué normalement et sans couper rire, donc ok. Et là en fait rebelote encore cette semaine, il y a cette intro avec Paul Heyman qui nous dit qu'il va traiter le problème des Usos ce soir et puis finalement en fait tout s'écroule comme un château de cartes en fait. Bah non, en fait les Usos sont draftés à SmackDown, donc sujet réglé entre guillemets. Solo Sikoa qui est vendu comme étant le problème solver machin, il faut surtout pas que voilà les Usos restaient bien au chaud, on n'a pas besoin Solo Sikoa c'est un petit peu l'homme du moment et puis au final en fait au main event on déconstruit un petit peu tout, j'ai l'impression, parce que finalement c'est toujours la même chose. Il y a eu encore distraction, DQ, les Usos qui sont arrivés comme d'hab, alors qu'ils n'avaient pas vraiment de raison scénaristique d'être là, et Solo Sikoa qui finalement n'était pas capable de gérer le sujet tout seul, et puis ça se termine sur un non-lieu parce que il s'est pas fondamentalement passé grand-chose et l'émission coupe et encore une fois comme à SmackDown, il y a eu tout un fil rouge qui n'accouche de rien, j'ai l'impression. Et encore une fois ce sentiment un petit peu qu'on s'est un petit peu foutu de notre gueule pendant 2-3 heures. C'est plus qu'agaçant, je trouve, mais bon, écoute, que dire d'autre à part on verra la semaine prochaine.
Ouais, je partage ton avis. Alors, je serais un peu plus mesuré sur un point, c'est que je trouve que depuis que la plotline existe, c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent, le côté de nous dire ouais, ce soir c'est toi, personne vient t'aider, tu te débrouilles seul, et puis finalement il y a une intervention, ça ressemble beaucoup à des coups tordus faits exprès pour presque se mettre dans la tête de l'adversaire pour qu'il se dise bon allez, ce soir c'est clean, et puis qu'en fait on l'a vu plein de fois avec Sami Zayn, les Usos ou même Roman Reigns lui-même, on va dire que c'est une technique de la Bloodline. Après oui, de toute façon ça pose presque une question, j'ai envie de dire c'est limite large. Depuis toi et moi, nos années, voire décennies de fans de catch, c'est qu'on entend très souvent, je trouve, cette ficelle scénaristique du « ce soir, on règle un problème ». Et en fait, ça veut rien dire, régler un problème, à moins de blesser le mec et de le faire partir à l'hôpital.
Ouais, exactement.
Ce qui arrive des fois, mais souvent, voilà, depuis 4 semaines, combien de fois on a entendu « ouais, nous avons un Sami Zayn problème, nous avons un Riddle problème ». Mais ça veut dire quoi, régler un problème? Si ça veut dire, parce qu'on a eu des matchs Solo Sikoa a battu Riddle... l'a laissé gisant au milieu du ring.
Voilà, exactement. Voilà. Ouais, il a réglé le problème.
1, 2, 3, il a réglé le problème, mais sauf que la semaine prochaine, le mec, il revient, il est en forme. Donc très souvent, finalement, alors là, c'est vraiment faire du fan exigeant, mais ça arrive régulièrement, je trouve que finalement, il n'y a jamais un truc qui règle vraiment le problème, et c'est juste qu'après, peut-être que dans 8 jours, il y aura un show où tout d'un coup, il va y avoir un truc, je ne sais pas, avec le Judgment Day ou quoi, puis hop, la Bloodline va enchaîner sur une autre rivalité, mais un peu juste par détournement d'attention et qu'on manque de ces moments qui sont vraiment des moments problem solver, je trouve.
Ouais, non, mais c'est une critique qui est juste et qui est même très très valide, je trouve, dans le cas de la Bloodline en particulier. C'est-à-dire que en effet, c'est ce que j'entendais aussi un petit peu par le fait que ce main event a redéconstruit un petit peu tout le fil rouge, comme à SmackDown, le main event avait redéconstruit aussi un petit peu tout le fil rouge de l'épisode. C'est que au bout d'un moment, c'est un peu comme l'enfant qui crie au loup, quoi. C'est ça perd quand même de son impact. Et je pense qu'avec ce phénomène un peu de la goutte d'eau là tout le temps, dire ouais, on va régler le problème, mais en fait on règle jamais le problème. Ça perd en impact. C'est-à-dire que dans un monde où ce serait bien buildé, je trouve que quand Paul Heyman dit en début d'émission que la Bloodline va régler un problème, tu devrais trembler un peu. Tu dis oula, il va se passer un truc, ça va chier quoi. Et en fait, à force d'avoir usé la ficelle, d'avoir vraiment éculé le truc, épuisé le truc au maximum, c'est vrai que maintenant, limite, ça tape dans le vide et presque tu as envie de rigoler. Tu te dis oui, vous allez rien régler du tout. Donc je trouve que c'est un problème, au-delà du fait que il faut accepter le fait que c'est une ficelle depuis la nuit des temps, machin. Pas tant que ça, parce que eux, c'est, c'est, je trouve que c'est dans le champ lexical et c'est particulièrement utilisé par la Bloodline. Et même, ils en font carrément un nickname, hein, c'est Solo Sikoa de Problem Solver et tout. Je trouve que c'est un problème parce que, justement, tu mets pas ton booking vraiment en adéquation avec ce que tu essayes de faire et de construire. Et je pense que c'est un vrai souci. Ça pourrait, en fait, c'est un souci dans le sens où ça pourrait être tellement mieux fait, je trouve, et régler de manière extrêmement simple. Ce genre de truc que du coup ouais, j'ai envie quand même d'être très critique là-dessus et ça me ouais ça m'a fait chier encore une fois cette semaine de voir Solo Sikoa alors qu'il faisait du taf hein, depuis WrestleMania sur Solo Sikoa hein, tu sens qu'il y a, il essaye vraiment de le booker, de le builder, de le positionner comme étant potentiellement là le vrai numéro 2 de la Bloodline depuis un petit moment. Ces main events sont vraiment contre-productif, je trouve, tout ça parce que il faut temporiser, que c'est backlash, que les rosters sont pas encore figés et tout, mais tu fais ce que tu veux, t'es pas obligé du tout de faire ce match, hein. Tu peux tout à fait faire autre chose. Ça m'a fait chier.
Bah, en fait, je suis d'accord avec toi, ça donne une impression qu'il y a deux bookers, en fait, c'est-à-dire qu'à la WWE, il y a un mec, une équipe de mecs qui va être chargé de faire semaine après semaine. Et puis il y a un mec au-dessus de ça qui fait les grandes directions et qui doit dire bah les gars là on a un objectif, c'est Night of Champions, parce qu'on a annoncé, en tout cas ils l'ont annoncé, que Night of Champions c'était un soir où tous les titres étaient défendus, donc on devrait revoir Roman Reigns en Arabie Saoudite. Et donc Night of Champions, il faut qu'on soit arrivé à tel point, ça sera Roman Reigns versus on sait pas qui encore, peut-être Cody Rhodes à nouveau, on sait pas. SummerSlam, il y aura ci, machin, il y aura ça, et d'ici là, les mecs ils doivent tricoter pendant des semaines en disant bon ok, c'est-à-dire qu'il faut tenir le truc 2 mois, et ben on va avancer à cette vitesse là. Mais oui, effectivement, c'est frustrant parce qu'on se dit à chaque fois, en fait on n'y croit plus, on se dit c'est un weekly, c'est pas maintenant que ça va se passer. On a l'habitude avec la Bloodline que ça se passe à fond pendant les pay-per-view, on l'a vu au Royal Rumble, on l'a vu à Elimination Chamber, on l'a vu à Clash at the Castle. Enfin voilà, on sait que les gros événements, enfin les gros changements sont pour des grands moments. On n'y croit plus à force et on le sent que ça va pas se passer ce soir-là en plus avec cette histoire de draft. Donc, ce qui est dommage parce que ça,
tous les yeux sont rivés sur ces émissions-là vu qu'ils ont travaillé au corps la fanbase à dire que la draft c'était la folie. Et puis finalement, sur ces soirées de draft, c'est vrai que quand on tire le bilan des deux soirées, il s'est rien passé, quoi. Enfin, en fait, il s'est vraiment rien passé. Alors que ça avait été vendu comme des trucs de dingue et tout. Et c'est vrai que peut-être naïvement, alors je sais pas, il y en a qui, les plus cyniques d'entre nous, les plus malins, ceux qui comprennent les ficelles du marketing et tout, machin, me riront au nez en me disant « tu t'énerves pour rien, tout ça, ça sert à rien et tout ». Ouais, mais en fait, c'est vrai que j'ai un peu un principe de base, c'est que avec la WWE et le catch en général, c'est voilà, moi quand on me dit qu'il va se passer un truc intéressant, du coup je m'y intéresse. Et quand on fait rien pour me vendre quelque chose, je m'y intéresse pas. Enfin, je suis le fil scénaristique qu'on me déroule sous les yeux. Et donc c'est vrai que ça m'énerve quand j'entends pendant des semaines, pendant un mois, voire plus, attention. 1er mai et puis du coup 29 avril ou 30 avril, je sais pas quoi, c'est la draft, le landscape de la WWE va changer à jamais, ça va être deux soirées fondatrices, tout ça, patati patata et tout, on me les vend, je dis ok, ouais, je vais faire l'effort, je vais m'intéresser, je vais regarder, je vais vous accorder un petit peu de mon temps et de mon intérêt pour au final avoir ces deux émissions coup sur coup qui, moi je trouve que c'est du foutage de gueule, mais bon, écoute, après chacun son délire, hein. Ça fait chier parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as vraiment l'impression qu'on est dans une période où tout est... Alors, je ferai sans doute plaisir à papy quand je dirai ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout est dans l'effet d'annonce permanent et qu'on se fait balader là d'un point A à un point B avec des jolies catchphrases et des jolies taglines marketing. Là, et ça commence à être un peu saoulant, ouais.
Et pourtant, Triple H n'a pas dit, en tout cas à ma connaissance, que jamais autant de titres n'avaient changé de brand ce soir. C'est ce qu'il prévoyait.
Et oui, non, c'était le pronostic de... Ouais, de... Mais non, il ne l'a pas fait, ça. Il n'a pas osé se foutre de nous à ce point-là. Ouais.
C'est vrai que c'est une... Bon, je suis d'accord avec toi, c'est une grosse déception. Tout reste très moyen. Moi, si je fais un bilan des deux drafts, en fait, le seul truc que je retiendrai, c'est que AJ Styles est revenu. C'est à peu près ça.
Oui, c'est vrai. C'est un retour, en effet.
Voilà. Et sinon, qu'effectivement, la WWE nous... Voilà, elle nous envoie des messages complètement débiles, je trouve. Alors voilà, je vais finir par ça. On nous a annoncé aussi des drafts supplémentaires, comme d'habitude, que je prends chez nos amis de Voxcatch. Alors on va considérer que c'est une source fiable et que c'est officiel. Hein. S'il y a des erreurs, n'hésitez pas à leur dire. Donc d'après Voxcatch, à Raw ont été draftés ensuite Dana Brooke et Nikki Cross, comme tu me disais, et qui n'ont pas du tout été cités. Johnny Gargano.
Oui.
Donc ça va nous. Je crois qu'on a un regroupement total de The Way là à Raw, puisqu'il y a même Indy Hartwell qui est là.
Ouais, mais du coup Austin Theory est parti. Mais oui.
Ah oui, mais bon, ouais, c'est vrai que c'était le jeune loup. Angel Garza, Humberto Carrillo, qu'on ne voit plus depuis très longtemps, à mon grand désespoir, que j'aime bien. Piper Niven, Xia Li, Tegan Nox, le couple.
Akira Tozawa aussi.
Akira Tozawa, exactement. Le couple Riddick Moss et Emma, donc voilà, oui. Qui sont là. Et à SmackDown, il n'y aurait, d'après Voxcatch, que Tamina et Grayson Waller qui sont passés du côté du show bleu. Alors maintenant, du coup, Natalia, elle est où dans tout ça?
Alors Natalia, en fait, elle avait été citée pour Raw, mais lors du SmackDown de la semaine dernière. Parmi les annonces hors show de la semaine dernière. Mais Raw qui récupère d'ailleurs justement, enfin qui conserve Candice LeRae, en effet, comme tu l'as dit, mais qui récupère aussi Sonya Deville et Chelsea Green depuis la semaine dernière. Donc je suis presque en train de me demander d'ailleurs, mais quelle est la division féminine de SmackDown maintenant? Je ne suis pas, c'est pas très clair pour moi.
En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de filles qui sont arrivées, je trouve, entre les tag teams féminines et autres de NXT, là.
Ouais, donc bon, écoute, on va voir. Et donc les nouveaux free agents qui viennent se rajouter à Dolph Ziggler, Mustafa Ali, Omos, et puis du coup, on l'avait appris dans l'émission Brock Lesnar, nous avons aussi Baron Corbin, qui est free agent, Shelton Benjamin et Cédric Alexander, et Elias, notre ami Elias, qui est free agent aussi, manifestement. Donc dans tous les noms, alors vu le profil des noms, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est une sorte de pré-charrette? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, toujours est-il qu'ils sont free agent et on n'aura pas plus d'explications que ça. Hein, parce que est-ce qu'ils ont le même négociateur que Brock Lesnar?
C'est-à-dire que c'est assez paradoxal de voir que d'un côté, free agent, c'est des gens qui le demandent, comme MVP et Brock Lesnar, et de l'autre, c'est le bas de la queue du panier.
Ouais, c'est ça, exactement.
On a eu un minuscule. On avait eu un segment avec Tozawa. La semaine dernière, je crois, où Tozawa se moquait en disant que Baron Corbin serait pas pris et que Elias serait la dernière des choix. Du coup, et Corbin et Elias se retrouvent tout en bas de gamme. Ça va sûrement engendrer un petit truc, mais alors quoi, je ne sais pas. Est-ce qu'ils se mettraient pas en tag team ces deux-là? Pourquoi pas Corbin et Elias? Ça pourrait être un profil un peu les espoirs d'il y a 3-4 ans là, de la WWE juste avant Covid. Et puis. Les déceptions, je sais pas, mais c'est vrai que de manière générale, là, si on joue le jeu, comme tu dis, de la draft, il y a un côté un peu bizarre où en fait, qui a le droit d'être drafté? Donc on remarque que, par exemple, Trish Stratus est draftable, mais pas Lita, donc on nous confirme, je pense, qu'on reverra plus jamais Lita.
Tiens, j'avais même pas tilté là-dessus.
Ah ben t'as
raison.
Les absents n'existent pas, donc par exemple Bray Wyatt, il était là il n'y a pas si longtemps, paraît qu'il va revenir. Bray Wyatt, on n'en parle pas. Évidemment, je ne parle pas des absents de longue date, mais effectivement, il n'y a pas de mention de Big E, de Randy Orton, tout ça, c'est des gens qui, quand ils reviendront, feront un retour.
Oui, ils vont nous faire des trucs. Tu verras que quand le jour où Randy Orton reviendra, bien sûr, moi aussi, je le souhaite, je l'attends même avec grande impatience, mais. Tu vas voir qu'ils vont laisser passer son entrée, puis Corey Graves glissera au micro vite fait. Ah, d'ailleurs, Randy Orton, qui, je l'apprends, venait dans les heures qui précédaient là, de négocier justement son arrivée dans tel show, ou alors son statut de free agent, patati. Ils nous sortiront le bullshit, machin, pour essayer de. Ou se trouve, ils se donneront même pas la peine.
Je pense pas, non.
Mais bon, voilà, oui, de toute façon, ils géreront en effet les absents comme des potentiels free agents.
Voilà, donc effectivement, maintenant on a les cartes des brands. Moi j'ai toujours du mal à regarder une brand si elle a l'air bien, pas bien. En fait, ça va dépendre beaucoup du boulot qu'ils font et de ce qu'ils leur font faire. Hein. Ils nous ont passé à la fin, ils nous ont passé un visuel avec le Monday Night Raw. C'est vrai qu'il y a des gueules. Il y a Becky Lynch et Seth Rollins, il y a Cody Rhodes et Rhea Ripley, il y a Kevin Owens et Sami Zayn, il y a Gunther. Là, c'est les premiers têtes de cordée, c'est quand même du costaud. Ouais. Derrière on voit des Drew McIntyre, du Judgment Day, du Braun Strowman, du New Day, Du Miz, du Nakamura, voilà, du Riddle, il y a de quoi remplir un show, même largement, même un peu trop. Il y a les Viking Raiders qui sont là, il y a Sonya Deville, comme tu l'as dit, il y a les Maximum Male Models, il y a Apollo Crews qui est de retour. Enfin, voilà, il y a un petit peu de monde, beaucoup trop bien sûr. Alors, est-ce que ça va vraiment... toujours la question du draft, on en parlera dans 2 mois ou 3 peut-être, quand on sera à Londres tous ensemble, mais est-ce que ça aura vraiment servi à certains de faire un new start, un fresh start? Bon, c'est pas sûr du tout. Hein. On sait qu'à la WWE, quand on vient de dire « Attention, tout va changer », des mauvais signes.
Ouais. C'est ça, c'est des mauvais signes, comme tu dis. Mais bah oui, écoute, bah maintenant il va falloir. Ouais, moi je suis. Bon, voilà, moi je me reprends quand même, parce que même si j'ai été globalement très négatif sur ces shows de draft, je reprends ce que j'ai pu dire par le passé, qui est que j'attends quand même avec impatience cette reséparation nette des shows. Enfin, en tout cas, j'en attends beaucoup. Maintenant, à voir comment ça va être exécuté, tu l'as dit. Hein, ça dépendra du travail qu'ils vont faire dans les brands, parce que grosso modo, les rosters de la WWE se sont tellement denses en qualité qu'il y a largement de quoi faire du taf sur les 2 émissions. Maintenant, ça va être, voilà, moi, ce que j'attends en tout cas de cette draft et des annonces de Triple H, qui j'espère ne seront pas que des annonces, bah, c'est de redéfinir une vraie identité par show, avec, pas que ce soit pas juste, on change la couleur des cordes, quoi, que ce soit vraiment 2 émissions avec des identités à part comme à l'époque. Comme ce qui avait pu faire en sorte que bah voilà, les amateurs peut-être de catch, de profils un peu plus techniciens, de challenger, d'équipe, de storyline peut-être un peu plus sérieuse et tout, se déportent vers SmackDown, et que les amateurs de grosses pièces de viande, de bling bling, de paillettes et de big time moments en quelque sorte, hein, pour bien enchaîner les anglicismes, bah, du coup se déportent plus à Raw, et qu'on ait un petit peu cette distinction, et puis peut-être pourquoi pas les pay-per-view brandés qui reviendraient, moi ça me déplairait pas foncièrement, et puis qu'on mette un gros paquet, voilà, sur la ceinture World Heavyweight Championship, qui serait peut-être un peu plus la ceinture des workers, et voilà, et qu'on y aille à fond, quoi, que ce soit pas juste finalement une sorte de promesse en l'air histoire de booster les ratings pendant 3 semaines, et que finalement le mois prochain on soit toujours dans un statu quo où finalement les règles s'envoleront du jour au lendemain, et puis on se retrouvera avec des interventions dans toutes les émissions tout le temps, parce que de toute façon, rien à foutre, et ça fait de la pop et compagnie, mais qu'on redéveloppe vraiment ce truc-là, et qui fera justement, si on est patient, si on est intelligent, et qu'on pense un petit peu plus moyen-long terme, qui justement pourront permettre dans le futur de recréer des gros moments, des gros what the fuck, quand il y aura justement des invasions, des interventions inter-show, des trucs qui font dire « Oh là là, attends, il va se passer quelque chose, quoi. » Et tout ça, moi, cet environnement, s'ils s'y tiennent et qu'ils le font bien, je suis très très heureux, en tout cas, de me diriger vers cette période-là, mais vivement qu'elle arrive, quoi.
Ouais, tu regrettes ta bonne époque où tu étais dans le catch-up SmackDown avec...
SmackDown.
Ben voilà, ouais. tu regrettes... Tu regardes Shane McMahon et Daniel Bryan, c'est ça, c'est cette belle époque.
Oui, puis il va falloir trouver des GM aussi, je pense que ça me paraît important. Hein, parce que
complètement.
Pauvre Adam Pearce, il est dépassé là.
Et puis on a vu avec cette brand justement que c'est pas les légendes qui manquent. Alors, je sais pas, peut-être qu'Adam Pearce c'est pas cher du tout. Je ne sais pas comment il fait.
Peut-être. Ouais, c'est peut-être. Vrai, parce qu'il fait tout lui. Hein,
ouais. Ouais, il fait tout et il en prend
plein. Il produit, il est à l'écran, il gère la sécurité des 2 émissions.
Il y a du boulot. Bon, Régis Cal, on va se laisser sur un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de ce show?
Ah bah oui. Bon, vous avez compris, hein, j'en ai pas pensé beaucoup de bien. Hein. Grosso modo, ils m'ont pas fait plaisir, la WWE, sur ces émissions. J'ai l'impression d'avoir globalement perdu mon temps à regarder des légendes lister des noms, mais sans en voir aucune conséquence. Donc c'est un show que j'ai trouvé très dispensable, auquel je vais mettre la note de 2. Je me suis même pas trop rattrapé sur le catch, parce qu'au final damage control contre les championnes par équipe, Omos pendant 45 secondes, même ce main event complètement avorté, et puis j'oublie, enfin peut-être aussi il y a eu un micro match d'Alpha Academy, enfin bref, c'est honnêtement, ça m'aurait bien fait chier d'avoir payé mes billets entre vendredi et ce lundi pour les épisodes de draft, si j'étais en voyage aux États-Unis et que j'avais payé mes billets en me disant oh putain c'est la draft. Ça m'aurait fait chier, globalement il s'est rien passé, donc 2. En top, c'est pas simple, il n'y a pas grand chose qui m'a captivé. Si je devais retenir vraiment un passage sympa, je dirais que c'est même si j'ai émis des critiques sur le build-up, je dirais que c'est cette intervention de Brock Lesnar, enfin qui a disrupté un petit peu cette draft et qui m'a fait. C'est le seul moment où je me suis, j'ai retrouvé un petit peu d'attention pour ce qui était à l'écran. Je me suis dit, ah ça y est là, on sort du statu quo, il se passe un truc avec cette petite brawl derrière et Cody Rhodes qu'on fait un peu monter la sauce pour leur match. On va dire que c'est un petit top. Et mon flop, voilà, il y a à boire et à manger, mais je vais tirer sur aucune ambulance individuelle et je vais faire encore une fois, je pense, un flop général sur cette draft qui pour moi est un peu une parodie de draft et surtout voilà une belle surcouche marketing histoire de faire un petit pop de rating pendant 2 semaines. Et donc ils sont Triple H, c'est encore une fois bien foutu de notre gueule. Et attention Triple H, attention parce que ça commence à bien faire. Voilà.
Ouais, je suis d'accord avec toi que c'est difficile de mettre une bonne note. Je vais mettre 2 aussi. Top et flop, c'est compliqué aussi. Tout n'était pas très bon. Je vais mettre mon top à Seth Rollins quand même parce que je trouve qu'au niveau pop et ambiance il surnage et que bah il est presque à son prime dans le sens où ça fait 10 ans qu'on le voit là et il a tout gagné et il a eu des très gros moments, mais une pop pareille, une popularité pareille, enfin c'est assez incroyable. Donc félicitations. Ouais, félicitations à lui d'arriver à ce niveau là et bah mine de rien je vais quand même mettre le flop sur le on va dire la fin du main event parce que du coup bah il y a moyen de faire un truc énorme avec ces deux gars, même si c'est juste pour un match de gala, il y avait de quoi nous envoyer du lourd. Surtout que, bon, il faut pas déconner, Rollins, il a pas trop transpiré ce week-end contre Omos, hein, il va faire 2-3 moves et on peut être surpris, hein, il y aura peut-être 15 minutes de match, mais ça m'étonnerait quand même. Et donc, petit flop quand même sur ce main event qui nous déçoit beaucoup. Voilà, à la Giscal, on en a fini sur ce draft, on va pouvoir avancer, ça y est, on va partir vers Puerto Rico au soleil. Donc, peuple de ketchup, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes, à réagir, à donner votre avis sur le draft, hein, partout, hein, que ce soit les podcasts audio, vidéos sur YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Donnez-nous votre avis, réagissez, parlez-nous, on communique, on discute, on lit vos avis à l'écran s'il le faut. Giscal est prêt à tout dire.
Je suis prêt à tout.
Voilà, il est prêt à être la voice of the voiceless pour nous, pour vous, peuple de ketchup. Allez Giscal, merci de ta présence, ce fut un plaisir de podcaster ce Monday Night Raw, au moins si le Raw est défaillant, le catch-up lui reste solide.
Exactement, bah, grand merci pour ton retour, et je suis heureux d'avoir pu être ton collègue d'un soir ou d'un jour, parce qu'on enregistre le jour pour ce retour aux affaires et pour ce podcast, merci.
Ben voilà, nous on n'est pas draftés, on reste tous à catch-up et on est interbrand, on continue là-dessus, peuple de catch-up, à très bientôt. Ciao, ciao.
Allez, ciao, ciao tout le monde.
Je sais pas si Papy et Ringside ont un contrat de free agents.
Peut-être.